Seigneur, merci pour ta parole qui est pour l'éternité, qui ne va jamais changer comme toi, que tu ne peux jamais changer non plus. Et on est juste reconnaissant parce que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre expérience, ni par notre connaissance. C'est vraiment par ton esprit, Seigneur. Ouin et conduis cet message ce soir pour ta gloire, s'il te plaît, Seigneur. Et touche nos cœurs. Merci. Amen. Amen. OK. Ce soir, j'ai un cœur de partager de Actes chapitre 17. En Actes chapitre 17, nous avons plusieurs choses en train de passer, mais nous avons deux groupes de personnes dans deux villes, et c'est très intéressant de voir les différences entre les deux. Donc, Actes chapitre 17, et je suis juste en train de chercher pour les versets. J'ai mis. Pardon. Voilà. Des fois, il y a des problèmes avec trop de notes. Actes chapitre 17, versets 10 à 12. 17, 10 à 12. OK. Avant, c'était à Thessalonique. Et la chose qui est passée là-bas est certains juifs jaloux ont organisé des problèmes contre Paul et les autres disciples. Ça veut dire de pousser dehors. Et donc, Paul part, quitte la ville et arrive à Berée. Aussitôt, verset 10, aussitôt les frères firent partie de nous, Paul et Silas pour Berée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il recueillit la parole avec beaucoup d'empressement. Il examina chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup des femmes grecques de distinction et de beaucoup d'hommes. Donc ici, c'est un groupe de juifs et Paul toujours, quand il arrive dans une ville, dans ses voyages de Paul, il cible premièrement la synagogue. Donc, toujours vers les juifs premièrement et après, s'il est en opposition, il va sauter dehors, il va prendre ceux qui le suivent et il va enseigner. Donc, il a certaines caractéristiques. Ces deux groupes sont deux groupes d'auditeurs. Donc, le message que j'ai intitulé, le message « L'attitude des auditeurs ». Donc, il y a deux types d'auditeurs. Il faut savoir à ce moment que les deux groupes lesquels on va parler, c'est deux groupes qui ne sont pas sauvés, mais deux groupes qui avec une attitude évidemment différente. Le premier groupe, dans cette ville de Berée, et on pose la question « Quelles sont les caractéristiques? » Évidemment, la première chose on peut dire, c'est des gens nobles. Nous avons une expression en anglais, un gentil homme. On dit en anglais gentleman, un gentil homme. Et originellement, le mot signifie quelqu'un qui était de noblesse, quelqu'un qui était haut placé. Pas nécessairement l'étiquette, pas nécessairement son caractère dans le sens qu'il était quelqu'un respecté, quelqu'un qui était gentil avec les autres. Plutôt la position de sa classe. Mais avec le temps, quelque chose est passé et maintenant si quelqu'un dit un gentil homme, c'est un compliment sur le caractère de cette personne. Sa façon de servir les autres, peut-être ouvrir les portes pour les autres, de laisser quelqu'un d'aller devant. Donc voilà, des gentilshommes. Ici, le mot noble peut être utilisé dans le même sens aussi. Et c'est ça qu'en fait, je crois que Luc est en train de dire. Pourquoi qu'ils sont plus nobles? Pas parce qu'ils sont haut placés dans la société, mais parce qu'ils ont une bonne attitude de respecter les autres. Donc, plus noble, et il explique après, mais c'est bien de savoir, c'est pas une question d'assumer que quelqu'un est de noblesse, donc ils sont mieux. Notre problème dans notre société est tout est relatif. Donc, on pense peut-être, si on place Genève comme un exemple, qu'un diplomate ou un banquier ou qu'est-ce qu'on peut dire, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est respecté dans la société, est automatiquement moralement plus bon que quelqu'un qui est peut-être comme nous. Et on peut dire, oui, je peux aimer cette personne ou respecter cette personne plus. Mais ce n'est pas que Dieu voit les cœurs. Donc pour lui, la personne haute placée, un politicien, banquier, quelqu'un riche à Genève, et ils ont besoin de Christ, ils ont besoin d'être sauvés. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est aussi peut-être d'une classe sociale beaucoup bas, plus bas, ils ont besoin d'être sauvés, les deux. Donc, on peut dire, j'aime une personne, je préfère une personne qui est plus de cette classe, de l'autre, ça c'est une question d'avis. Mais ici, on est en train de parler de ce n'est pas une question de noblesse là ou là, c'était une attitude de cœur. Donc, les brillants sont nobles, et c'est noble métaphoriquement, si on peut utiliser l'expression, parce qu'on voit dans le prochain verset, ils ont une bonne attitude. Le mot ici, prothomia, en grec, traduit et rendu beaucoup d'empressement, ou dans le Darby, ils recourent la parole avec toute bonne volonté. Donc ici, c'était traduit avec toute bonne volonté. L'idée ici est quelqu'un était préparé. Ils sont préparés pour écouter. Donc c'est d'avoir une attente que quand Paul arrive, ça va être évidemment important pour eux. Donc, aucune familiarité. Et comme la Bible dit, est-ce que c'est Paul qui dit ça? Je ne sais pas dans ma cœur la référence exacte. Si on écoute la parole et on pense qu'on connaît la parole, on ne connaît pas. On est inversé et on pense, je connais cette verset, je peux répéter par cœur, mais je ne connais pas le verset là. Je connais le verset là quand c'est une réma. Et en plus, quand c'est une parole qui est enseignée comme dimanche, Ephésiens 2, 8, je dois écouter comme c'est pour la première fois. Et c'est ça qu'ils ont une attitude. Peut-être le chose que Paul va enseigner, peut-être ils ont déjà entendu, mais ils n'ont pas entendu. Et notre attitude, si on peut donner une application, et on arrive dans l'église, et le prédicateur a préparé son cœur. Il a préparé le message, et maintenant Dieu va utiliser lui pour communiquer. Donc, quelle est ma responsabilité? Ils sont prêts avec une attente que Dieu peut parler et Dieu veut parler. Et nous, aussi. On n'est pas là de faire tiddlywinks, c'est un jeu des enfants. On est là vraiment pour écouter Dieu et Dieu va nous visiter et va parler une parole précise pour chacun de nous. Et c'est le devoir. Dieu va faire sa devoir, le prédicateur va faire sa devoir et moi, auditeur, j'ai une partie de faire. quand j'étais premièrement dans une église, je pensais, pourquoi, qu'est-ce que se passe ici? Les gens commencent à chanter, certains ferment les yeux, font tout ça. Et après, tout est assis et quelqu'un prêche. J'entends tout le monde est assis. Donc, on écoute. Mais c'était pas comme on pense dans le monde. C'est pas on est passif dans notre réponse. Passif est quelqu'un qui regarde la télévision comme ça. Ça, c'est passif. Actif est plutôt quand il y a un engagement et une communication de deux sens. Et ici, il y a une communication dans le deux sens. Ça veut dire, ils sont des cœurs préparés et probablement les questions dans le cœur et les pensées. Souvent, je peux juste donner une parenthèse. Si nous avons des questions nous-mêmes, je peux vous assurer que Dieu va répondre les questions. Parce que je sais, ma femme dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce que Pasteur Charles est en train de dire. Et dans la prochaine chose il dit, il répond. Est-ce que Pasteur Charles entend ma femme? Évidemment pas. Si nous sommes dans notre salle, et lui, il est combien de milles de kilomètres de distance? Non. Mais le Saint-Esprit a entendu, et le Saint-Esprit va répondre aux questions. Et ça, c'est la chose extraordinaire de savoir un cœur prédisposé. Chacun de nous, je cherche pour une bonne illustration. Quand tu prépares pour cuisiner, tu mets les éléments dans la place pour préparer. Tu chauffes le poêle, etc. Chauffe l'eau peut-être si tu sais le poêle pour cuisiner. Je suis pas un expert de cuisine, évidemment. Mais il y a un élément de préparation pour préparer les éléments. C'est pas une panique de chercher quelque chose et jeter dans le poêle, non. C'est une certaine organisation et une certaine cuisine ici. Donc, vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais ici, c'est le même. Il y a une préparation de mon cœur, il y a une préparation par moi. Dieu va parler maintenant, je vais écouter et mon cœur est déjà préparé. Et c'est juste dans le honor code, le code d'honneur de le royaume de Dieu, que nous, qui vivons dans ce code d'honneur, on a un respect pour ça. La parole est prêchée, on écoute, on note peut-être, c'est bien de noter. Et après ça, on peut regarder nos notes et on peut profiter de l'enseignement qui est donné. Et ces hommes et ces femmes, dans la synagogue, ils ont cette attitude prédisposée. Je suis prêt dans tous les cas. On peut être prêt si on a un accident de voiture. On est prêt si on voyage. Si vous avez une valise, vous considérez toutes les possibilités. Il fait chaud, donc je prends des vêtements légers. Il fait froid, donc je prends des vêtements, etc. Si j'ai un mal au ventre, je vais prendre les éléments pour ça. On est très bien organisé, j'espère, pour voyager. Mais est-ce qu'on est prêt bien disposé quand la parole est prêchée? Et les Bereans, ils sont cette attitude. C'est peut-être des guidelines, c'est plutôt les conseils. Mais moi, quand je prépare, je sais que c'est juste moi qui parle. Mais quand je vais être prêt, je vais mettre une note là, stylo, je vais pré-écouter, j'ai la Bible là, je suis prêt. J'étais déjà à la toilette, donc aucune pensée, ok, je dois visiter. Non, je suis positionné, je pense aux climatisations, donc ok, je vais être pas sur les climatisations, etc. Il y a des considérations pratiques. Pourquoi que je dis ça? Parce que si on est discipliné avec des autres choses, pourquoi qu'on peut pas être discipliné qu'on écoute? Donc, certaines choses, je veux pas entrer dans ce chemin, mais juste de noter ça. Des cœurs ouverts est le troisième point. Donc, premier point, noble. Ça, c'est un sentiment de noblesse, une attitude respectueuse, une dignité, une attitude généreuse. Deuxième, prédisposé. Je suis prêt. Troisième, les cœurs ouverts. Acte chapitre 16, verset 14, parle de... J'ai beaucoup J'aime beaucoup cette verset. C'est Lydie, une femme de Thyatira, qui avait son cœur ouvert par le Seigneur. Ça, c'est verset 14, Actes chapitre 16. Philippi, début d'une plantation de l'Église, Paul et les disciples arrivent, l'équipe, et Lydie était là en train de faire certaines choses parce qu'il n'a pas une synagogue. Elle était juive. Elle était là pour honorer Dieu. Ils n'ont pas une synagogue parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour établir une synagogue. Ça veut dire les juifs, ils ont fait quelque chose ailleurs. Et c'est exactement ce qui est passé ici. Mais la chose qui est passée, son cœur était ouvert par Dieu. Ici, on est en train de parler de le mystère de la œuvre pré-salut qui passe dans les vies. C'est quelque chose que j'ai vu avec mes propres yeux. Comment quelqu'un est préparé par Dieu? On peut dire simplement comme ça. Pharaon a fermé son cœur. Il a fermé et Dieu a confirmé ça. Ça veut dire en Exode, c'est commence en chapitre 5, si je me trompe pas. C'était dit que Pharaon a fermé son cœur. Son cœur était plus dur. Et c'était sept fois, je pense, et trois fois que le Seigneur a confirmé son état. Donc le Seigneur est juste, en fait. Il a juste confirmé l'attitude de Pharaon. Voir le posé ici, et c'est possible de voir quelqu'un qui est ouvert et touché, Dieu peut faire le reste, parce qu'il y a une partie que l'homme doit faire avant d'être sauvé, il y a une partie pour Dieu de faire. Et ici, on voit clairement que Dieu a ouvert, il a ouvert le cœur de Lydie. Ça veut dire que Lydie était prête pour écouter Paul. Elle avait expérimenté un prix salut, une œuvre prix salut. Donc, elle était prête pour ce moment. Paul également, Actes chapitre 9, n'a pas arrivé de ce moment si son cœur n'était pas touché par Dieu. Son cœur a répondu et il est un moment et il était sauvé. Donc, une œuvre de prix salut, c'est possible. Et on a un exemple en Actes chapitre 16, d'un cœur qui était ouvert. Après, évidemment, ça c'est le mystère, on ne peut pas donner toutes les réponses, mais clairement, avant d'être sauvé, son ancien cœur était sensible. Et elle avait un nouveau cœur planté, évidemment avec un esprit, pour écouter Dieu et marcher selon l'esprit maintenant. Donc, un cœur ouvert. Vois comment ils sont prédisposés et le cœur est ouvert. Vois maintenant un croyant. J'arrive ici, je suis là, j'entre par la porte, je suis croyant. Donc j'ai un nouveau cœur, n'est-ce pas, avec mon esprit. Mais j'ai eu une mauvaise journée, j'étais un peu amer dans mes réflexions négatives. J'arrive ici et je suis pas prêt. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Les premières 10 minutes, la parole est balancée et moi, je passe à côté parce que j'écoute, mais je suis pas écouté. Je suis là, mais je suis pas là. Et donc, c'est une question maintenant de dire, OK, Seigneur, et c'est quelque chose qui a déjà passé avec moi, peut-être avec certains de vous, mais de savoir que c'est une attitude, OK, Seigneur, j'ai une mauvaise attitude, je repente. Maintenant, je vais écouter. Connexion. Et c'est possible parce que le Seigneur veut qu'on écoute. Mais c'est possible pour moi de résister. Non, je n'aime pas ça. Je suis négatif. Et maintenant, qu'est-ce que se passe? Je résiste Dieu. Et en Jacques chapitre 4, verset 6, je suis pas humble, donc je suis orgueilleux. C'est un ou l'autre, humble ou orgueilleux. Si je l'humilité, Dieu va donner plus grâce. Si je suis orgueilleux, je vais résister et Dieu va me résister. Donc, en fait, je suis maintenant en résistance avec Dieu et j'entre peut-être dans cette Qu'est-ce qu'on dit? C'est un chemin de discipline qui peut passer progressivement. Donc, bonne nouvelle, pour eux, les cœurs sont ouverts, ils ont répondu à Dieu. Prochainement, humilité. Psaume 34, verset 2, ça c'est le quatrième point, humilité. Parce qu'ils avaient une bonne attitude, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils ont cette noblesse, cette bonne attitude avec Dieu, avec les autres, ils sont humbles et les humbles, les humiliés, peuvent écouter avec joie. Donc, c'est une possibilité maintenant parce qu'ils sont humbles, évidemment, comme nous avons déjà dit. Parce que c'est une humilité dans l'écoute. Maintenant, Dieu donne plus de grâce. Je ne suis pas en train de résister Dieu. Je suis en train d'écouter et de recevoir. Et donc, je peux recevoir grâce pour grâce. Jean chapitre 1. Il a donné grâce pour grâce. Charis, anti-charis, c'était grâce plus. Donc, cette humilité, ce qui est important, ça veut dire j'accepte d'être brisé. Peut-être ma journée, qui était vraiment pourrie, si je peux utiliser l'expression, peut être utilisée par Dieu pour préparer mon cœur, pour dire maintenant je suis tellement soif, Seigneur, aide-moi. Et donc, en fait, voir comment ce que je pense est négatif peut être tourné pour le bien. Et pour le bien, peut-être, ils sont pas si haut placés et donc, peut-être pas une bonne saison pour eux. Mais l'humilité est passée, ils sont préparés. Et cette humilité est maintenant le cinquième point. Ils sont pas orgueilleux. Donc, ils écoutent. Et c'est pas de ramasser l'information. Je vais expliquer pourquoi on dit ça après. Mais ils sont pas les grosses têtes. C'est pas une question, je mémorise la Bible par cœur maintenant. Oui, voilà, je suis quelqu'un super spécial. Non. J'ai pas mémorisé, mais j'ai médité et comme en Psaume 1, je suis béni parce que je médite jour et nuit la parole. Je suis béni parce que je médite la parole jour et nuit. Donc, ma vie est fructueuse. Donc, il est un amour. La parole est maintenant vient par l'esprit avec la vérité, avec amour. Donc, c'était la parole vivante. Et donc, ça fait quelque chose dans mon cœur. Il y a une construction dans mon âme. Il y a des murs de protection, de conviction. Et c'est pourquoi que Joseph peut résister. Il n'a pas résisté, il a juste enfui de la femme de Potiphar parce qu'il avait quelque chose en lui. Il avait des convictions. Et les convictions viennent de quoi? D'écouter la parole et de former une conviction pour moi-même. Donc, ici, on voit... L'amour, c'était pas juste la connaissance de la tête. Oui, je connais la Bible, je connais ce passage. Non, je connais pas ce passage, mais maintenant, j'ai une rhéma qui vient et je suis nourri dans mon cœur. Et en Luc chapitre 24, mon cœur peut brûler, comme pour les deux disciples en retour de Emmaüs. Maintenant, il y a un témoignage. Donne mon cœur par le Saint-Esprit. Et donc, on peut voir quel est le résultat pour les Bériens. Réponse positive, salut. On voit ça, je vais retourner, c'est verset 12. Le salut, plusieurs entre eux crurent. Ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et de beaucoup des hommes. Donc, il y a une réponse, il y a une récolte. La parole était semée et il y a une réponse. Et maintenant, on va passer d'une comparaison et on va voir Athènes. Athènes, ça c'est vraiment intéressant. Depuis c'est le même chapitre, c'est verset 15 jusqu'à la fin de le chapitre. Ici, on peut voir un contraste. Ici, on peut voir quelque chose en comparaison. Verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 17, donc, cet passage. Donc, c'est possible de lire cette partie de le passage pour vous-même, mais on peut voir beaucoup de choses en train de passer ici pour les Athènes. Les Athènes ou les Athéniens? Les Athéniens, merci. La première chose, Paul était choqué, tellement bouleversé, tellement troublé en fait. Comme Paul les entendait, donc il entendait pour Timothée et Silas, référence en verset 15, mais verset 16, à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Il était excité. Verset 16 de Darby, en fait, la version Darby. Donc, son esprit était provoqué et irrité. À la vue de cette ville pleine d'idoles, idolâtrie, Athènes était remplie avec les idoles. Il note qu'il dit, en fait, je vais juste voir le verset. Quand il commence à parler, il dit, je constate que vous de Athènes sont tellement religieux. Mais le mot ici parle en fait de, je vais juste référencer le verset afin que vous pouvez voir, Verset 22. Paul, debout au milieu de l'Aéropage, dit, homme d'Athènes, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. En fait, démoniaque. C'était tellement possédé par les démons. Il y a une forte possession de démons ici. Ils sont pris par tous ces idoles. Et quand nous avons une idole, derrière, évidemment, une idole va attirer un démon. Donc, c'est pas juste des bouts de bois ou de pierre. C'était derrière quelque chose qui prie. Là. Et là, captive ceux qui adorent ces idoles. Et là, je voudrais parler de quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si c'est possible pour ceux qui ont en Zoom de voir ça. J'ai ici un schéma, une présentation. Nous avons deux mots ici. En grec, que Pastor Stevens il a parlé de ça pendant un cours. Hupsoma et bathos. Hupsoma et bathos. Hupsoma, 2 Corinthiens chapitre 10, est-ce que c'est verset 5, parle de les choses qui sont chères, les choses hautaines, les choses d'en haut, qui cherche de remplacer Dieu. Hupsoma. C'est le mot en grec hupsoma. L'autre mot, bathos. Nous avons bathos, par exemple, en Psaume 119, que ma chair, mon âme est attirée à la poussière. Vivifie-moi selon ma parole. Est-ce que c'est verset 25, de Psaume 119? Là, nous avons cette idée. Les démons, donc le royaume de ténèbres, peut opérer dans ces deux sphères, Hupsoma et bathos. Rappelons que quand j'ai parlé de ceux de haute place dans la société, donc un banquier, un politicien, choisir quelqu'un riche, des gens qui sont vraiment d'une classe sociale beaucoup plus élevée. Qui possède et contrôle ces gens? Le royaume ici de Hupsoma. Est-ce que, oui, c'est possible? Vous pouvez voir Julio et les autres, pas une? Non? Ok, comment on va faire ça? Comme ça. Est-ce que vous pouvez voir Hupsoma et Bathos? Peut-être je peux envoyer une photo après, ça va être plus pratique. Ok, donc cette idée, idée de Hupsoma que c'est en fait des forteresses de Ogoï par les démons qui contrôlent ceux qui sont placés en haut. Ephésiens chapitre 2, est-ce que c'est verset 2? Les fils de désobéissance, ça veut dire les modèles, des exemples dans le monde, dans ce système diabolique, ce monde sur la puissance de diable. Et cette idée que nous avons des gens qui sont des exemples pour les autres afin que le gens va imiter l'exemple. Exemple, les acteurs, actrices, comédiens, comédiennes, politiciens, auteurs, réalisateurs de films, influenceurs de YouTube, sportifs, haut placés, la liste continue. Mais ceux qui sont là pour influencer les autres de suivre. Pourquoi? Parce que les démons cherchent toujours dans le Ancien Testament, particulièrement dans les livres de Rois et Chroniques, pour prendre les hautes places. Et les adorations étaient plus toujours dans les montagnes ou les collines avec les autels. Ça pour contrôler que les gens arrivent là. Dieu ne veut pas que ça se va passer. Donc, lui, il a donné une unique place pour adoration. Ça, c'est le temple. Tabernacle, premièrement. Temple, deuxièmement. Hupsoma, ça veut dire qu'il est idolâtré et les gens suivent les exemples qui suivent les démons. Hupsoma, c'est évidemment les démons qui contrôlent les gens qui sont haut placés. C'est possible pour quelqu'un d'avoir une certaine influence et richesse. Et on peut dire, waouh, comment ces personnes peuvent être tellement rapidement arrivées là? Nous avons des exemples d'histoire qui les gens qui arrivent d'une autre place pour contrôler beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce qu'un démon veut contrôler. Je sais que j'ai en train de aller rapidement, mais simplement de comprendre, le diable veut contrôler le plus de gens possible. Il va utiliser certains pour être des imitateurs, les modèles pour exemple, qui sont contrôlés par les démons. Donc, voilà, c'est les gens qui, évidemment, ils ont des compromis dans ces vies, ils sont des fils de désobéissance. À Athènes, nous avons les gens qui vivent comme ça. Des intellectuels. Les gens qui sont haut placés, qui sont des adorateurs de ses propres intellects académiques. Université, voir comme nous avons des gens qui sont tellement intelligents, mais trop intelligents, ils passent à côté de la simplicité de Christ. Donc en fait, Hupsoma, ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin comme nous tous. Donc, pourquoi en Psaume 73, je ne vais pas être inspiré ou d'influencer, de copier les gens qui sont de la malin? Parce que je ne veux pas suivre quelqu'un qui est en train d'aller en enfer. On ne peut pas être imitateur ou d'être jaloux. Ah, cette personne a beaucoup de l'argent, une vie, il peut voyager partout. Oui, mais cette personne, évidemment, il est idolâtré. Et pour ces philosophes grecs en Athènes, ils sont orgueilleux, ils sont idolâtreurs. Donc c'est une idolâtrie ici. Ils sont placés là, intellect là, comme c'est quelque chose pour glorifier. Donc ils se vantent de ses propres intellects et passe à côté de la vérité. Et ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, je cherche mon... Voilà. En Ézéchiel chapitre 16, verset 49, en lisant cette version, on peut voir que Sodome n'était pas juste un lieu complètement dépravé avec ceux qui sont homosexuels et en fait il y a des choses horribles qui sont passées, mais aussi il y a quelque chose de plus. Dans cette version, on peut voir les gens qui sont insouciants, paresseux, ils ont une abondance de nourriture. Et ces gens sont, voilà, la vie est tranquille. C'est comme ceux qui ramassent beaucoup de choses pour être dépendants de lui-même. L'homme riche qui a construit ses greniers, et il a détruit son grenier pour élargir et construire des autres greniers afin qu'il puisse être, maintenant j'ai tout ce que j'ai besoin, je peux reposer pour quelques années. Et donc, en train de faire ça, Dieu a dit, insensé, tu vas mourir ce soir. Ici, un des péchés de Sodome, c'était aussi ça. C'est pas juste le fait qu'ils sont complètement dépravés. C'est aussi qu'ils sont insouciants. Une société qui est comme ça va être en train d'approcher destruction. Pourquoi? Parce que insouciant, je suis pas compatissant pour les pauvres. Je suis pas là pour aider les autres. Je suis le centre de ma vie. Et quand je vois des fois dans la société, les sociétés pauvres et les gens qui sont en train de mourir, et je regarde notre société, et dans ce pays, les gens sont riches, en train de faire des compétitions, de manger le plus de nourriture possible, juste pour s'amuser, je pense, destruction. Insouciant. Donc, on peut voir en Athènes, c'est les gens qui s'amusent, qui passent le temps. Il n'y a pas un sens d'urgence là. Ils sont pas. C'est juste un grand loisir en fait. Donc Athènes, c'était. On peut voir si on lit ça, on peut voir et vraiment c'est s'amuse et le loisir, intellect était honoré. Le troisième point. Toujours en 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Toujours en train d'apprendre, toujours en train d'apprendre. Daniel chapitre 12, on tourne dans un rang. Parce que j'ai tous les livres devant moi, je peux apprendre, mais apprendre de quoi? Je peux voir tous les documentaires de National Geographic que je veux, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que se passe? J'ai besoin de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr, c'est pas pour dire on peut pas être informé des autres choses. Moi, j'aime de lire certaines choses, d'être informé sur l'histoire, politique, économie, etc. J'aime d'avoir un peu plus d'informations. Je suis curieux. Mais de savoir que ces gens sont en train de s'amuser, de tourner dans un rang, d'apprendre, mais jamais arriver de le but d'être sauvé. Parce que nous avons compris et maintenant on est en train d'apprendre de nouveau la connaissance qui amène plus proche de Christ. Mais pour le non-croyant, la chose qui est la plus importante est d'apprendre Christ, de goûter et de savoir que le Seigneur est bon. Et donc ici, c'était juste apprendre. Mais il n'y a pas la vie là. Il n'y a pas une transformation. La transformation qui vient par la connaissance de Dieu nous transforme nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Notre langage change. Nos habitudes changent. La façon de voir le monde change. Donc, toujours tourner dans un rang. Donc, toutes les choses de nouveauté. Ah, est-ce que quelque chose est nouveau? Toujours en Daniel chapitre 12, en train de courir dans les derniers temps pour chercher quelque chose d'intéressant, de stimuler mon intellect. Ah, ça c'est très bien, je peux remplir, ma tête peut être un peu plus grosse. Oui, très bien. Et orgueilleux, Actes chapitre 17, verset 18. Ici, nous avons aussi, en verset 32, qui sont dit, ah, quelle est la chose que tu es en train de communiquer? Quelle nouvelle doctrine? On vous demande d'écouter. Donc, comme ils sont des juges, comme ils sont des connaisseurs, est-ce qu'on est vous des connaisseurs? J'ai rien contre le cuisine français, la cuisine suisse, etc. Mais de voir certains gens qui arrivent dans un restaurant qui parle de la cuisine. Ah, je mange cette chose et je bouffe ça. C'est snob. Snob. C'est, la nourriture est bon. J'aime de manger des bons plats aussi. J'apprécie ça. Mais c'est tel orgueilleux, cette arrogance d'être, ah, on a visité cette ville et on a, Jacques a parlé de ça. Aussi, il a dit, si on veut, dans une année, on va voyager dans cette ville et cette pays. Qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de Jacques? Il a dit des choses tellement fortes. Et donc, ici, c'est exactement cette attitude. Oh, on veut écouter. Parle, s'il te plaît. Et c'est cette attitude. Nous sommes, snob, viens, on va écouter. Et après, il a prêché, qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains moquaient, donc ça c'est arrogance de juger de nouveau. Mais l'autre dit, on va t'écouter de nouveau la prochaine fois. Ah oui, Mono et Paul va partir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le dernier message que tu vas écouter de Paul parce qu'il part d'Athènes. Vois comment cette attitude d'arrogance. On est là sur nos hautes chaises en train de, ah, qu'est-ce qu'on peut dire, comparer. Je préfère cette pasta. Non, je préfère pas cette pasta. Non, j'aime ça. De choisir pour nous-mêmes comme la parole de Dieu est quelque chose que je peux comparer. Si Dieu utilise un homme de Dieu de prêcher, on peut écouter cet homme. Peut-être on peut dire oui, mais j'aime mieux que cette personne peut communiquer plus clairement la parole. OK, on est tous en train d'apprendre. Mais d'avoir cette attitude de « Non, non, je ne vais pas écouter cette pasteur, mais je vais écouter cette pasteur. » Moi, c'est pour, en fait, si tu peux utiliser cette expression, décelé pour ça, mais ce n'est pas une bonne attitude de l'homme de Dieu ni de femme de Dieu de penser « Je choisis entre cette pasteur et cette pasteur. » Et quand je discerne pour moi-même, je dis « Écoute, je dois écouter. » C'est pas juste que c'est pas un cette pasteur que j'aime que je peux pas écouter quelqu'un d'autre. Évidemment, je parle pas de discerner de doctrine, je plutôt parle de présentation de orateur. Donc ici, cet orgueil de comparer Paul avec tous les autres, ah, c'est une doctrine, on va écouter cette doctrine. Cinquième point, sagesse. Les guerres en Grèce, à Athènes, Sparte, je peux pas nommer tous les villes-états, mais il est dit bataille. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après cet âge auré de Grèce? C'était passé à Alexandre le Grand, et après ça, c'est passé avec Rome. Donc l'Empire romain a possédé et contrôlé Grèce. Donc toute cette attitude que nous sommes le mieux, nous sommes le centre du monde, oui, Dieu va juger ça. Et il a fait. Donc, on fait attention de ne pas penser que nous sommes le centre du monde juste parce que on est dans le 20e, 1e siècle et nous avons tous ces outils, toutes ces choses pour dire oui, voilà, regarde-nous. Non, le monde occidental est dépravé et en pleine décadence. On chute, en fait. C'est une question de temps. Sagesse. Sagesse est toujours justifiée par ses enfants. Matthieu 11, verset 19. Et on voit la sagesse. Les gens qui peuvent parler, qu'ils sont les philosophes. Mais à la fin, voir ses vies, comment ils sont comportés. Est-ce que c'était la vraie sagesse? Ou est-ce que c'est une sagesse de en bas? Si c'est la sagesse de pas de Dieu, mais une sagesse démonique. Il est de jalousie, il est de dispute, il est de querelle, compétition. C'était pas la paix, en fait. C'est complètement opposé. Et je vais juste finir avec point numéro 6. cette idée d'amasser les doctrines, que c'est exactement que ces philosophes, ces hommes d'Athènes en train de faire. C'est de dire que j'ai tous les livres, j'ai entendu tous les messages, j'ai toutes les doctrines. Oui, j'ai un livre, ma bibliothèque est remplie. Oui, j'ai entendu tous les prédicateurs. Et la crainte de Dieu, c'est où? La crainte de Dieu, c'est d'avoir cette révérence. C'est pas à moi de ramasser tout ça. Est-ce que j'ai des livres? Oui, c'est bien de lire. Mais est-ce que j'ai une attitude de penser que c'est plutôt quand je suis un collecteur des timbres? Quelqu'un qui collecte? Un philatéliste, un collectionneur des choses. On peut être les scarabées, les insectes, les nombres de trains, c'est peut-être des avions. Oui, c'est les gens qui font exactement ça avec cet esprit, non? Avec les doctrines, on peut pas faire ça, mais c'est exactement ce que ces hommes sont en train de faire. Juste comparaison, juste de mettre, d'accrocher les boîtes et tout ça. Voir la différence entre les deux. Et à la fin, quelle est la conclusion à Athènes? Certains ont moqué, certains ont dit on va écouter de nouveau. Oui. Et certains accrochés à Paul. Mais une église n'était pas de notre connaissance plantée suite à ça en Athènes. Voir la différence entre la vie et la mort. Voir la différence entre ceux qui acceptent et ceux qui disent non. Et voir que c'est tellement important. Donc, comment on écoute? Avec quelle attitude? Qu'est-ce que c'est mon attitude quand j'écoute? Est-ce que je peux sérieusement tomber dans une façon de penser, oui, j'ai fait toutes les conférences de Greater Grace cette année. Bravo, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de faire ça? Oui, je suis tous les cours. Oui, amen. Mais qu'est-ce que Dieu demande avec notre emploi de temps? Et donc voilà, cette attitude d'être ce que sont des brillants et pas des Athéniens. Que Dieu vous bénisse.